Nous sommes présentés dans notre second cours. Nous commencions pour nous unir un peu au synode. Nous tâchons de voir pourquoi et comment répondre à cet appel de l'Église. Je vais commencer pour ça à vous relire cette liste, mais c'est pas mal de lire ensemble. C'est un acte de foi et d'espérance et d'amour en même temps, vous voyez, du Saint-Père. Vous voyez, la lettre qu'il a adressée à tous les évêques, prêtres et fidèles de l'Église, et qui est datée du 15 août, c'est la fête de la Sainte Vierge. Voici qu'approche le synode des évêques, qui à partir du 26 septembre de cette année, se penchera sur l'état de la famille chrétienne dans le monde contemporain. C'est donc un problème de première importance qui sera étudié au synode. Mon prédécesseur Paul VI a parlé du ministère de l'Église à l'égard de la famille. Le dernier concile œcuménique s'est prononcé sur ce thème, en rappelant que la famille est le fondement de la société. Quand tu parlais de Paul VI, il rappelait l'encyclique Humanae Vitae. Et que, puisqu'elle est en même temps une église domestique, elle garantit l'existence et le développement de toute l'église. Dans la famille, en effet, naissent des membres nouveaux de la cité des hommes, dont la grâce de l'Esprit Saint sera par le baptême des fils de Dieu, pour que le peuple de Dieu se perpétue tout au long des siècles. Cette image divine de la famille, renouvelée et sanctifiée par Jésus-Christ, est souvent à notre époque appauvrie, obscurcie et peut-être même profanée. Il faut par conséquent réfléchir encore aux paroles de Jésus-Christ. Au commencement, il ne fut pas ainsi. Il faut que le synode manifeste ce que veut dire suivre le Christ dans la vie conjugale et familiale. Oui, il faut que les familles d'aujourd'hui se ressaisissent, il faut qu'on suive le Christ. Le synode de cette année est un événement important pour la vie de l'Église entière et pour sa mission. Si cette mission s'exprime dans l'évangélisation, vous voyez, je crois que le pape est dans la journal qui vient d'arriver aujourd'hui, dans l'homélie qu'il a fait hier matin à la chapelle Sixtine en ouvrant le synode, il redit la même chose. Vous voyez, je pense que vous avez vu suffisamment combien le pape prépare lui-même ce synode. Hein? Vous voyez? Alors je crois qu'il est très très important pour nous de voir les liens que justement le pape indique, vous voyez, entre les trois synodes qui ont déjà eu lieu. Le synode de cette année est un événement important pour la vie de l'Église entière et sa mission. Cette mission s'exprime dans l'évangélisation, qui fut le thème du synode de 1974. Vous savez comment ça se prend, l'évangélisation. C'est important, et nous retenions. Vous voyez, l'évangélisation consiste à, dans le sens que notre Seigneur a donné comme signe, les pauvres sont évangélisés. Que les pauvres ont besoin d'être évangélisés. Parce qu'ils ont besoin qu'on leur présente le mystère de Jésus tel que Jésus lui-même, dans sa vie, l'a présenté. Vous voyez, l'évangélisation de notre Seigneur est dans le prolongement des prophètes, dans le prolongement qui a été depuis le début de la révélation, mais ajoute quelque chose de tout à fait nouveau. Parce que cette église des apôtres, la première tâche des apôtres, c'est d'évangéliser. Vous voyez, évangéliser, ce n'est pas faire un cours de philosophie, c'est présenter la vérité de la foi complètement. Vous voyez, dans son intégrité, le plus simplement possible, mais de telle manière que les pauvres puissent y adhérer immédiatement. Mais grâce au Saint-Esprit qui leur donne une inspiration, en même temps que l'évangélisation leur expose la révélation. Vous voyez, ça c'est très très important dans l'Église, que révélation et inspiration, cela toujours de pair. Hein? Mais tout ce qui est révélé par Dieu de telle manière qu'il y a la promesse que l'Esprit Saint, quand on parle des termes révélés, que l'Esprit Saint, de l'intérieur, donnera une grâce pour qu'on comprenne cette parole. Vous voyez? D'où l'apôtre, quand il évangélise, ben, il compte sur l'inspiration de l'Esprit Saint. Vous voyez? Et alors, c'est pour ça que Saint Dominique, par exemple, qui a été essentiellement un évangélisateur et qui a voulu n'être que ça, voyez, alors que dans son œuvre, il a demandé que l'œuvre excellente, par excellence, ce soit uniquement l'évangélisation. Mais l'évangélisation, le synode a bien précisé, ben, que ça implique à la fois d'enseigner l'Évangile et de baptiser et donner les sacrements. Hein, parce que c'est une caractéristique de l'incarnation, c'est que Jésus vient nous révéler le mystère de la vie du Père à la fois par une parole et par des gestes. Hein, oui. Donc, oui, ça c'est très très important parce qu'il y a une certaine conception de l'évangélisation en France qui n'est pas du tout juste. Vous voyez, parce que très souvent, on a l'impression quand on parle d'évangélisation, comme si en fait c'était l'annonce de l'évangile, mais comme en apportant sans qu'il y ait les sacrements. Hein? Vous voyez, au fond, qui n'est qu'un prélude. Vous voyez, l'évangélisation, c'est pas la vie publique de Jésus seulement. Vous voyez, lisez les synoptiques. Lisez les actes des apôtres, lisez les épîtres de Saint-Pierre, de Saint-Paul, de Saint-Jacques. Bon, dans les épîtres de Saint-Pierre, de Saint-Jacques, de Saint-Paul, il est tout le temps question de la passion de Jésus et de sa résurrection. Hein? Vous voyez, au fond, c'est... Et nous ne pouvons... L'évangile, le summum de l'évangélisation, c'est quand Jésus obtient la grâce. Hein? Au fond, par sa mort et sa résurrection. Vous voyez ? Et il a bien dit à ses apôtres, vous ne pourrez évangéliser qu'en vous reçu le Saint-Esprit. Vous voyez ? Dans l'Église de Jésus, prophète et apôtre, ça ne s'équivaut pas, c'est pas la même chose. Vous voyez ? Et l'apôtre de Jésus, ben, c'est celui qui va jusqu'au sacrement. Vous voyez ? Mais la différence, c'est que dans l'évangélisation, on présente simplement la vérité en elle-même, hein, la façon la plus simple, mais avec toute la force et l'autorité que donne l'amour. C'est pour ça que Saint-Dominique, au fond, voulait que ses fils soient essentiellement des contemplatifs. C'est-à-dire qu'ils vivent ce qu'ils prêchent d'abord, qu'ils vivent par amour. Vous voyez? Et donc, l'autorité que Jésus avait quand il donnait la parole, bien, ils aient cette autorité par leur amour. Vous voyez? Que les gens, en les entendant, sentent qu'ils vivent. Vous voyez? Et que donc, par cette autorité, ils soient des vrais témoins. Un témoin, il faut qu'il ait une autorité. Vous voyez? À la grande différence, vous voyez, d'un enseignement des mathématiques, par exemple. Vous voyez? Ou d'un enseignement purement, au fond, littéraire extérieur. Vous voyez? C'est pour ça que, au fond, dans l'Église, vous voyez, l'âge, les grands ordres évangéliques, les franciscains, les dominicains, les jésuites, et tous leurs fondateurs ont insisté sur le fait qu'il fallait toute une vie donnée à l'évangélisation, hein, pour que cette vie soit un témoignage. Vous voyez, mais ce qui est capital, pour nous, c'est toujours voir que, au fond, l'évangélisation implique que ce soit annoncé. Hein? Vous voyez, au fond, c'est pas simplement faire prendre conscience au pauvre de ce qu'il a en lui, c'est de répondre à son besoin. Vous voyez, comme très justement Marc le disait tout à l'heure. Vous voyez, quand il disait, ben, que plus on découvre que la vie est tortueuse et que le bon Dieu nous mène par des chemins difficiles, ben, nous avons besoin de nous accrocher à Jésus.
Son besoin donc nous rattachait à sa révélation et aux moyens qu'il nous a donné de le recevoir. Alors ensuite, vous voyez, si cette mission s'exprime dans l'évangélisation et se concrétise dans la catéchèse, thème du synode de 1977. Vous voyez, c'est très... Les deux expressions sont certainement très voulues par le pape. S'exprime, se concrétise. Alors, la différence entre la catéchèse et la prédication et l'évangélisation, non, c'est que je crois que la catéchèse se rattache, vous voyez, alors, à tout un milieu qui a une certaine culture. Non, vous voyez, et qui ayant une certaine culture, ayant une certaine civilisation, bon, nécessairement se pose la question de voir comment peut-elle s'harmoniser avec l'évangélisation. Alors c'est pour ça que dans les mouvements d'action catholique, ben, la catéchèse jouera un rôle important, parce que dans des milieux de vie différents, non seulement par le travail, mais par la culture, par le langage, par les coutumes, par tout cela, bon, il faut voir comment concrètement, dans la vie, bon, mais dans cette vie, vous voyez, d'homme cultivé, non ? Vous voyez, et je dis à la culture qui commence à, dès qu'on apprend à lire. Hein, vous voyez. Alors, tout de suite après, ces deux tâches fondamentales, ces deux tâches vitales de l'Église restent alors fondamentalement unies avec la famille. La mission de l'Église se tourne vers la famille avec l'amour que Dieu lui-même a révélé en elle par son Fils. Cette mission se réalise en même temps et en grande partie dans la famille et par la famille. Si l'on considère l'importance de ce problème, il faut entourer d'une sollicitude particulière et d'une prière universelle les travaux du synode des évêques de cette année. Vous voyez, et je crois que si nous voulons bien comprendre ce point de vue de la famille, ça importe même pour nous ici, pour l'Arche. Parce que vous savez que quand il y a été question un petit peu de voir à quoi se rattacherait l'Arche, hein, au fond, au point de vue, par exemple, pour le père Desmazières, monseigneur Desmazières, ben, il va poser la question, il a demandé, ben, parmi les commissions épiscopales différentes, à quoi se rattacherait l'Arche, hein, ben, on n'a pas voulu la rattacher à la faculté, à la commission pour les écoles, pour l'université. Vous voyez ? Donc, à tous ceux qui regardent la catéchèse. Hein? Mais on a senti très bien qu'il faudrait beaucoup plus la rattacher à la famille. Vous voyez ? Parce que c'est la même commission qui s'occupe de la famille et des communautés. Hein? Vous voyez ? Toutes les communautés chrétiennes. Hein? Parce que, bon, par exemple, la vie religieuse, vous voyez, se rattache essentiellement aux communautés. Parce que la vie religieuse, c'est avant tout une famille, la famille, au fond, c'est une famille nouvelle, mais à l'image de la Sainte Famille. Vous voyez, et ce n'est pas une structure sociale, non, vous voyez, ça ne dépend pas ça dépend immédiatement du point de vue de la famille. Ce n'est pas de l'université que ça dépend, de la commission des universités et des écoles. Vous voyez, et ça, alors, parce que c'est très très important, parce que, vous voyez, le pape, quand il parle de la famille, rattache toujours famille et nation. Non, vous voyez, en disant les pays, la nation sous la fille du pays. Non, les pays ont leurs traditions. Les traditions qui se rattachent, qui continuent la famille. Non, alors tout ça, ça se rattache aux vertus théologales. Vous voyez, immédiatement. Non, vous voyez, c'est pour ça que, au fond, pour l'Église, la famille a de plus importance même que le pays. Non, parce qu'elle est beaucoup plus immédiatement la ressemblance de Dieu. Vous voyez, je pense que c'est pas mauvais, nous avons aujourd'hui un mariage. Et au fond, c'est après ce soir, mais d'en profiter, vous voyez, parce que tout le synode sur la famille est en même temps continuellement les questions du mariage. Vous voyez, et le pape, on sent très bien, rattache très fort les deux liens. Non, vous voyez, au fond, et qui oblige par le fait même à voir le mariage même, un signe peut-être plus large. Vous voyez, en voyant que dans la grâce du mariage, la grâce du mariage est donnée aux deux époux, mais en vue des enfants, l'éducation des enfants, en vue. D'où la grâce du mariage sera rendue au moment du baptême d'un nouvel enfant. Vous voyez, au fond, parce que c'est dans les desseins de Dieu, vous voyez, c'est très frappant quand on voit que les sacrements, ils sont tous institués immédiatement par Jésus. Une des conditions du sacrement. Là où il se distingue des cérémonies sacramentales, comme on dit, qui sont établies par l'Église. Vous voyez, il y a des bénédictions d'une maison, par exemple, ce n'est pas un sacrement. Tandis qu'un baptême, c'est un sacrement. Les deux premiers sacrements que Jésus a institués tout de suite, avant même sa vie publique, dès le début de sa vie publique, avant qu'il prêche même en enfant, ça a été le baptême, par son propre baptême. Hein, et on rattache toujours le mariage aux noces de Cana, qui commence par aller aux noces de Cana, commence sa vie publique. Et avec toutes les paroles, toute la manière dont saint Jean le présente. Voyez, et c'est très très important parce que ce sont ces deux sacrements, mais qui sont intimement liés dans l'idée de notre Seigneur. Voyez, puisque le péché, voyez, dans la justice originelle, le père de famille aurait été en même temps le prêtre. La manière dont saint Thomas le présente, la justice originelle. Parce que s'il n'y avait pas eu le péché originel, l'état de virginité, au fond, n'aurait pas existé. Mais il y aurait eu un lien entre la famille de la terre et la famille spirituelle. Alors, vous comprenez que par le fait même, dans l'Église de Jésus, il va falloir des liens très fort, les tout petits enfants qui sont baptisés, parce que justement ils n'ont pas reçu la grâce. Vous voyez, dans l'état de justice originale, si Adam avait gardé sa grâce spéciale de père, c'est la grâce qu'il a perdue. Vous voyez, il avait eu une grâce toute particulière comme premier, comme père. S'il avait gardé cette grâce de père, qui aurait été confirmée par Dieu quand il se serait uni avec Ève, au fond, il aurait été le prêtre qui aurait transmis en même temps que la vie humaine, la vie de la grâce, qui aurait été donnée en même temps. Et comme Marie l'Immaculée, au fond, dès la conception par Anne et Joachim, Marie en même temps a eu la grâce, dès son Immaculée Conception. C'est donc Anne et Joachim qui étaient comme les instruments, en fait, de Dieu pour cette grâce. Vous voyez ? Bon, s'il n'y avait pas eu le péché originel, les parents l'auraient été. Alors, depuis qu'il y a le péché originel et que les enfants n'ont plus, à la fois l'Église veut que les tout-petits-enfants soient baptisés, mais elle veut en même temps que les parents soient mariés par un sacrement, pour que ces tout-petits-enfants, l'Église puisse les confier à la famille, comme à la première école de la foi. Vous voyez, mais d'une foi vivante et aimante, comme la première école des vertus théologales. Vous voyez ? Alors c'est pour ça que le mariage a une telle place dans l'Église. Vous voyez ? Je l'ai beaucoup dit souvent, mais je crois que c'est toujours très très important à propos du synode, parce que Dieu nous le rappelait. Vous voyez ? En fait, dans l'Église de Jésus, il n'y a pas un sacrement du travail. Il n'y a pas un sacrement de la politique, si vous voulez, d'initiation à la vie publique. Au fond, vous voyez, avant de voter, on ne reçoit pas un sacrement. Vous voyez, et Jésus juge qu'on n'a pas besoin de recevoir un sacrement avant. Mais dans la justice, dans l'Ancien Testament, et dans l'état de la justice originelle, en fait, le confesseur a été marqué immédiatement sous le signe des grandes. Vous voyez ? Mais c'est très important de voir qu'il n'y a pas non plus de sacrement dans l'entrée à l'école. Vous voyez ? Quand un petit enfant commence à aller à l'école, donc qu'il apprend sa culture, c'est un grand événement dans la famille. Vous voyez ? Mais au fond, il n'y a pas un sacrement nouveau à ce moment-là. Vous voyez ? Alors ça nous fait saisir que ce sacrement, vous voyez, du mariage, hein, a une portée extraordinaire. Vous voyez ? Parce que c'est une réalité tellement matérielle en un sens, mais que Dieu prend. Vous voyez, il n'y a pas deux familles, il n'y a pas une famille chrétienne, une famille laïque. Hein, hein, pour Jésus, la seule vraie famille, c'est une famille chrétienne. Hein, vous voyez, actuellement, on peut dire en toute vérité, c'est impossible de pouvoir avoir une vraie famille sans l'esprit chrétien, c'est pas possible. Vous voyez ? Tandis que vous pouvez avoir un professeur qui vous apprenne à lire, au fond, qu'il ne soit pas baptisé, qui au fond, c'est... Vous voyez ? Parce que la famille, au regard de l'Église, vous voyez, elle est intimement liée à notre sanctification. C'est très très frappant quand vous prenez tout l'Ancien Testament et vous lisez la lumière de la famille. Hein? Et Abraham, cette figure, l'envie de l'Ancien Testament. Hein? Vous voyez, toutes ces grandes épreuves sont autour de la famille. Hein? Vous voyez, la première épreuve de sa foi, bon, c'est au fond lui qui est vieux. Hein? Est-ce qu'il va croire à la parole de Dieu, s'approcher de Sarah, donc elle doute. Et puis ensuite, au moment où Isaac est adolescent, non, est-ce qu'au fond, il sera prêt à le sacrifier à son Dieu, non, au fond, et intérieurement, Dieu lui demandera de faire ce sacrifice intérieur d'abord. Vous voyez ? Alors quand on voit que pour Dieu, c'est le cœur qui implique, ben, il faudra que ce Abraham montre qu'il aime son Dieu bien plus même que son enfant. Non ? Parce qu'au fond, pour que son enfant, qu'il puisse charger son enfant du fagot, et qu'il aille avec son enfant, m'a demandé à un psychiatre, à un psychologue actuel, hein, je dirais, mais au fond, ça demande une confiance en son Dieu de la part d'Abraham absolument extraordinaire. Hein. Au fond, pour un père, la plus grande question, c'est de dire est-ce qu'il ne va pas perdre la confiance de son enfant, hein. Bon, pour obliger en quelque sorte à se faire de faire confiance à Dieu avant de faire confiance à son enfant, et croire que le Saint-Esprit sera là, que Dieu sera là, pour faire comprendre à l'enfant même son geste. Vous voyez ? Alors là, je crois que vous voyez, il y a tout un aspect qui me semble très très important, hein, pour toute cette question, pour bien comprendre l'importance du synode. Vous voyez ? Alors, je continue la lecture, hein, parce que c'est pourquoi, lorsque débutera d'ici peu le synode des évêques, il faudra que toute l'Église participe à ses travaux. Vous voyez, parce qu'il nous le demande, que toute l'Église participe à ses travaux. Il faudra que toute l'Église soit d'une certaine façon présente au synode. Présente surtout par la prière et par le sacrifice. Et donc, pendant tous ces jours-ci, je crois qu'il y a vraiment un appel du bon Dieu, hein, vous voyez, pour la prière et le sacrifice. Quels sont les sacrifices, il semble, que le bon Dieu peut nous demander le plus, vous voyez ? Ceux qui tiennent le plus au point de vue de la famille. Hein, et à tout ce qui tient, vous voyez, ben, pour les prêtres, pour les religieux, ben, le sacrifice d'avoir quitté sa famille. Au fond d'être prêt, vous voyez, parce que c'est toujours dans ce sens même de l'amour de la famille qu'il est fait. Hein? Bon, mais pour nous en vie de communauté, vous voyez, je crois, de tâcher de vivre sa vie de communauté, au fond, pendant ces jours, dans cet esprit de sacrifice. Hein? Vous voyez, la vie de communauté, au fond, ça implique de tâcher de vivre selon l'esprit de la Sainte Famille. Hein? Vous voyez, et tout ce qui touche, au fond, pratiquement un petit peu les sacrifices que le bon Dieu peut demander intérieurement, vous voyez, autour, pour répondre à l'appel du Saint-Père. Je demande à tous les fils de l'Église de prier, voyez, et de faire des offrandes spirituelles en faveur du synode, afin d'obtenir la lumière et la force de Dieu pour les pères du synode réunis en assemblée. C'est très frappant, vous voyez. Notre pape actuel, vous voyez, comme il reprend presque les paroles même de Marie. Hein? Prière et sacrifice, et pénitence, vous voyez. Et ce que demandait Marie à Fatima au petit. Hein? Vous voyez, et il précise dans ses offrandes spirituelles, vous voyez, au fond, ces offrandes spirituelles qui consistent justement que toute la part un petit peu sec, ben, au fond, de sacrifice que le bon Dieu peut nous demander. Vous voyez, et plus nous avons un cœur délicat, plus nous aimons, au fond, plus, de fait, beaucoup de choses sont des sacrifices que le bon Dieu nous demande, continuellement. Vous voyez, mais de les présenter comme des offrandes spirituelles. Vous voyez, en fait, remarquez, c'est la meilleure manière, en fait, qu'un sacrifice ne devienne pas un poids pesant. Vous voyez ? Et très, très frappant, dans l'audience du Saint-Père, la dernière, celle qui vient du 23 septembre, vous voyez ? Le pape, quand il reprend les paroles de notre Seigneur pour la pureté du cœur, pour la question de... Bon, il reprend toute cette question... au fond, de l'importance de l'attitude du cœur. Vous voyez ? Et c'est tellement frappant. Hier, ceux qui ont été à l'enterrement de la sœur, de la fille de Mme Benton, ça a fait combien, lui-même, son mari, et au fond, toute l'assemblée, combien il y avait de prières. Vous voyez ? Et enfin, comment, vous voyez, dans n'importe quand le bon Dieu nous demande un détachement, c'est vrai. Pour une maman, le plus grand sacrifice, c'est le sacrifice de son enfant. Vous voyez, au fond, le sacrifice, l'offrande spirituelle, et c'est quand nous nous unissons au sacrifice même de Jésus, et ça a un sens dans l'Église, l'offrande spirituelle. Vous voyez, au fond, quand par exemple, vous voyez, dans l'Église, le pape l'a repris lui-même une fois à propos du Saint-Sacrifice de la Messe. Vous voyez, il dit, dans le sacrifice de la Messe, il y a le sacrifice de Jésus. Bon, nous communions, mais en même temps, nous devons, par des offrandes spirituelles, nous unir au sacrifice de Jésus. Vous voyez ? Alors, l'offrande spirituelle, vous voyez, c'est cette acceptation de toute la part ou d'assaise, de sacrifice qu'on demandait pour simplement faire la volonté de Dieu, par exemple, dans le travail, mais encore beaucoup plus, vous voyez, c'est sacrifice du cœur. Hein ? Vous voyez, au fond, que le bon Dieu peut demander dans les moments, de beaucoup de manières, sacrifice, l'absence, l'incompréhension, n'importe les grandes incompréhensions, n'importe, vous voyez. Mais ça change complètement. Vous voyez. Au fond, je vous l'ai souvent dit, vous voyez, au plan de l'espérance, c'est tellement important. Vous voyez. Notre tendance, et le monde actuel avec la psychologie, continuellement une espèce d'analyse. Hein? Vous voyez, ça c'est la tendance moderne, je dirais, et qui est tellement la tendance naturelle de notre être. Vous voyez, quand il nous arrive quelque chose, au fond, nous l'analysons. Vous voyez ? Bon. Alors, où nous tâchons de sublimer en un sens, de tâcher de prendre des compensations, d'oublier par autre chose, n'est-ce pas ? Où nous tâchons très souvent, vous voyez, comme de nous approprier la souffrance, de l'adapter à nous, et par une certaine analyse, mais un petit peu morbide. Hein? Et en tout cas, il y a toute une... où nous restons un peu dans notre souffrance. Hein? Alors que l'attitude profondément chrétienne, c'est d'offrir tout de suite la souffrance. Vous voyez? Et cette offrande, ça supprime l'analyse, par le fait même. On l'offre, puis c'est tout. Vous voyez, c'est exactement comme dans la pénitence. Vous voyez comment la pénitence nous délivre de la culpabilité. Hein? Vous voyez, parce que dans la pénitence, nous nous prêtons Jésus. Bon, et puis nous disons tout simplement, ben voilà, bon, je ne sais pas exactement, mais certainement qu'il y a des torts de ma part. Je ne cherche pas à faire plus, bon, je te l'apporte, je te demande pardon. Hein? Et puis j'y pense plus. Hein? Vous voyez, au lieu que, vous voyez, de nous-mêmes, nous avons toujours tendance par notre psychologie, vous voyez, ou de nous justifier intérieurement, ou de tâcher de rejeter la chose sur, on voit d'autres raisons, ou en un sens de nourrir des ressentiments, de prendre des petites revanches intérieures, si vous voulez. Vous voyez, l'offrande coupe court à tout cela. Vous voyez. Or, c'est très très frappant, ben, que le pape, de nouveau, vous voyez, il insiste continuellement sur cet aspect d'offrande. Vous voyez. C'est un vrai fils de Saint Jean de la Croix, et surtout c'est un enfant de la Sainte Vierge, vous voyez, qui reprend les termes même de Marie, prière et sacrifice. Vous voyez comme Marie a préparé le petit Fatima. Hein? Voyez? Alors demanda, mais ces sacrifices intérieurs, vous voyez, qui ne changent rien dans notre vie, mais qui changent l'attitude intérieure que nous avons par rapport à tout ce qui dans notre vie arrive, qui est contraire à nos goûts, voyez, qui s'oppose à nos goûts, voyez, ou qui nous humilie. Hein? Vous voyez, au lieu de nous replier, de nous analyser, alors, de nous refermer ou de s'opposer, vous voyez, bon, on l'offre au bon Dieu. On sait que c'est une matière. Et ça, c'est tellement important parce que c'est tout nouveau depuis que Jésus est venu sur la terre. Hein? Depuis que Jésus est venu sur la terre, il nous a montré comment même nos fautes peuvent devenir matière. Il nous demande tout simplement de ne pas être orgueilleux, donc de ne pas faire de nos souffrances une richesse, mais de les lui donner, pour nous en débarrasser, près de lui, voyez, et puis, au fond, c'est cette œuvre. Alors pendant, vous voyez, pour répondre à l'appel du pape, il me semble qu'il nous faut profiter pendant ces prières et ces offrandes spirituelles. Voyez, parce que ça me frappe en lisant le texte avec vous. Il y a toujours des lumières quand on lit un texte ensemble. Hein, j'avais dit avant, mais ça n'avait pas remarqué. Vous voyez, parce que vous apportez la présence. C'est Saint-Augustin qui dit, c'est le clin, c'est le prédicateur. Et même quand on lit, vous voyez. Alors, vous voyez, le pape demande lumière et force. Il revient continuellement aussi sur ces deux aspects, lumière et force. Hein? Parce que dans un synode comme celui de la famille, hein? Même quand nous voyons, par exemple, la manière dont beaucoup de familles chrétiennes ont réagi, hein, par rapport aux questions qui peuvent être posées, hein? Bon, on sent que le pape demande au Saint-Esprit une lumière. Pour tâcher de bien voir qu'est-ce qui est fondamental dans la famille et tâcher de discerner toutes les nuances, non, à la fois pour exprimer ses vérités et pour tâcher de voir les moyens pour pouvoir l'appliquer. Non, vous savez que le pape, c'est ma petite française qui le disait, à tout ce qu'il peut y avoir comme méthode naturelle, au point de vue de la pour les au point de vue de la régulation des naissances, le pape s'intéresse énormément, n'est-ce pas? Il y a des médecins américains en particulier, il les a eu pendant plus de 2 heures, hein? Vous voyez, parce que on sent très bien que le pape a une espèce de souci, vous voyez, de tâcher par la lumière de voir tous les moyens. Tâcher de découvrir encore davantage dans tout ce domaine si mystérieux les liens entre la nature et la grâce. Et puis la force. La force pour les familles et la force même pour le pasteur, pour maintenir la vérité. Vous voyez? Les deux, pour dire. Vous voyez? Et ça fait partie de cette autorité, on parlait au milieu d'évangélisation. Vous comprenez? Vous voyez? C'est que vous le demandez très fort pour les pères du concile. Et puis pour le pape lui-même, les deux grâces qui nous sont demandées, vous voyez, lumière et force. Non, vous voyez, parce que je pense que vous ne saisissons pas assez la force qu'il faut pour le pape. Non, vous voyez, pour maintenir ce qu'il croit que le Saint-Esprit lui demande, et quand il sent qu'il y a tant de réticence. C'est très dur. C'est très dur de prêcher dans la douceur et la paix. Un enseignement quand on sent que les gens ne le reçoivent pas. Hein? Et cependant, on sent que le bon Dieu veut qu'on le dise. Vous voyez, parce qu'il y a la tentation à ce moment-là, ou d'abdiquer, hein? Et de ne pas toucher les sujets brûlants, hein? Ou l'autre tentation, qui est de prendre l'agressivité. Vous voyez, et enfin, notre pape, il veut toujours rester très doux. Hein? Vous voyez, c'est au fond, c'est relativement facile Vous voyez, de se présenter comme un tribun qui attaque. Hein? Là, une espèce de force agressive, mais ce n'est pas la force de Dieu. Là, il parle bien de la force de Dieu, la force de la douceur, la force de l'amour. La famille est une cellule, vous voyez, dont proviennent toutes les vocations et les divers états de vie dans l'Église. Alors là encore, vous voyez, notez l'importance du pas pour les vocations, parce que là, il marque nettement, ici, distingue les vocations et les différents divers états de vie dans l'Église, bien, c'est bien les vocations sacerdotales et les religieuses. Et ceci, chacun selon le mode qui lui est propre, sont voués au service de la famille, comme Paul VI disait aux prêtres. Alors ça, c'est les paroles même de Paul VI. C'était aux équipes Notre-Dame, le 4 mai 1970. Vous le savez par une longue et riche expérience, votre célibat consacré vous rend particulièrement disponible pour être auprès des foyers, dans leur cheminement vers la sainteté, les témoins agissants de l'amour du Seigneur dans l'Église. Dans l'Église, en effet, c'est le pape qui continue, Jean-Paul II. Dans l'Église, en effet, comme l'enseigne l'apôtre, nous sommes pourvus de dons différents selon la grâce qui nous a été donnée. Et cela parce que nous ne formons qu'un seul corps dans le Christ. Je vous invite donc tous ardemment à prier et à offrir des sacrifices pour le Seigneur. Et sur cette insistance de Dieu. J'invite spécialement les malades à prier et à faire des sacrifices, car ils ont été appelés par la Providence à participer plus étroitement au sacrifice du Christ. Je m'adresse aussi de la même façon aux ordres contemplatifs, que le Christ a appelés tout particulièrement à porter le souci des problèmes de son Église. Je voudrais dire ensuite quelques mots très cordiaux d'encouragement aux familles. Alors là, c'est bien formidable. Il faudrait que les églises domestiques, des familles chrétiennes, deviennent, à partir du 26 septembre prochain, notre petite église domestique, c'est à elle que s'adresse le pape, un lieu de prière fervent pour le synode de cette année. Si familiale, si orientée vers elle dans l'Esprit Saint, avec une sollicitude et un amour particulier. Alors le pape continue, que vos fils et vos filles, si aimés du cœur du Seigneur Jésus, obtiennent de lui sa bénédiction pour vos familles et pour les familles du monde entier. Alors, ici c'est important aussi, je ne sais pas si vous l'avez déjà lu, avec lui. La principale journée de prière pour le synode sera le dimanche 12 octobre. Je désire que ce jour-là, on fasse des prières publiques dans tous les diocèses, dans les paroisses, dans les églises, selon les indications des pasteurs. Alors, vous voyez un petit peu qu'est-ce que vous désirez qui est comme ça. Une veillée la veille, sans doute, peut-être de prière le soir, afin qu'il y ait quelque chose.
Oui, une veillée.
Ça a journée de clamer.
On pourrait peut-être
comment
faire une veillée.
Qu'est-ce que
père?
Tu comment?
On pourrait peut-être faire une veillée.
Une veillée, là.
Oui, père.
Mais pas dans les foyers, chacun le dise. Pour qu'il y ait beaucoup de monde à cette veillée. Hein, et que ce soit toute la communauté qui participe à la
même.
Que toute l'Église et que toutes les familles s'unissent ce jour-là dans une prière commune. Et dans la mesure du possible, j'invite ce même jour à Rome les représentants des familles de toute l'Église, afin qu'ils puissent rencontrer le successeur de Pierre et les pères du synode. Et manifester ainsi la présence spirituelle de toutes les familles de l'Église, unies dans la foi et dans l'amour.
Je confie toutes les familles à la sainte famille de Nazareth. Et je lui donne de grand cœur à vous, vénérables frères et chers fils, et surtout à Saint Foyer, ma bénédiction apostolique. Vous connaissez la prière pour le synode qui a été dite par le pape, hein, des évêques. Hein? Bon, on peut la dire tous ensemble, on peut la dire à la fin. Le temps pour terminer. Bon. Alors, je crois, vous voyez que si nous voulons tâcher d'entrer dans l'Esprit Saint-Père, il y a prière et sacrifice. Bon, et je pense prenons tous les sacrifices, vous voyez, pour tâcher de vivre plus profondément cette église domestique. Vous voyez, prenons-la tout à fait à propos de, au fond, de, justement, des exigences qu'implique justement une famille et une cité où justement c'est pratiquement sous le type de la famille religieuse que nous devons le vivre. N'est-ce pas? Parce que je pense que pour s'occuper des pauvres, vous voyez, au fond, nous ne pouvons pas, nous ne devons pas le faire, ou alors nous faisons simplement d'un point de vue social, répondre pas du tout au but du pas. Hein, si nous voulons le faire simplement par moyen humain. Hein, vous voyez, mais ayant, par notre baptême, en participant à la sacerdoce de Jésus, à la confirmation, voyez, nous avons tous la possibilité, en faisant partie de cette église de Jésus, au fond qui est la première, qui est la continuation de la Sainte Famille, vous voyez, trouver tous les moyens pour pouvoir justement apporter justement à tous ceux qui sont autour de nous, revivre ce mystère de la Sainte Famille plus intensément. Vous voyez? Alors c'est les deux. Alors je crois que pour bien comprendre aussi tout ce que le pape nous dit à propos de la famille, vous voyez, il faut très spécialement le voir en lien, vous voyez, avec cette première éducation qui est donnée par la famille. Et puis que nous réfléchissions un peu, vous voyez, que, au fond, notre sanctification, qui est le plus important pour nous dans notre sanctification, vous voyez, tout ça se rattache aux trois vertus théologales. Et au fond, ça se rattache toujours, d'une manière ou d'une autre, vous voyez, ou à la famille de la terre, ou aux communautés qui remplacent et qui prolongent la famille, ou à l'Église elle-même en tant que famille. Non? Vous voyez, quand je vous disais dans le premier cours, pas que, en réalité, il y avait comme deux spiritualités dans l'Église, une spiritualité tout à fait universelle qui enveloppait tout, la spiritualité de Marie, Marie mère de l'Église. Et puis celle des apôtres, alors là où il y a une diversité suivant les différents états, il y a les personnes. Vous voyez, il ne faut pas que nous oublions que parmi les 33 années de sa vie, hein, vous voyez, Jésus a voulu que les 30 années de sa vie cachée les passent avec Marie. Pour nous faire comprendre que dans nos vies, ben, la sanctification, c'est surtout dans ce qui est caché qu'elle se réalise. Hein, vous voyez. Ça ne veut pas dire que tout le moment du travail, par exemple, quand nous sommes au fond à notre travail, que ce soit aux ateliers ici, que ce soit au bureau, que nous soyons dans le monde, que nous soyons. Ça ne veut pas dire que c'est pas en fait la sanctification. Voyez, mais je pense que dans l'esprit de l'Évangile, voyez, Jésus a voulu travailler, mais ce travail s'est resté à la prière de la vie cachée. Donc, c'est resté très fort uni à Marie et à Joseph. Vous voyez, le travail de Jésus, ce n'est pas un travail qui a été au fond avec les apôtres. Non, il a été travailleur pendant un temps avec Marie et Joseph. Et ça nous fait comprendre, vous voyez, que dans le travail, qui par lui-même est très dur, parce que bon, à cause, vous voyez, le cœur doit rester très fort attaché, je dirais, vous voyez, à notre famille de l'Église et à notre communauté spirituelle. Vous voyez. C'est parce que notre sanctification est toujours au plan du cœur. Vous comprenez? Alors c'est très frappant de voir que Marie, qui nous est donnée comme mère, hein, pendant les 30 ans de la vie cachée, est à la croix. Parce que c'est tout de même un très grand mystère qu'à la croix, il n'y a eu que Jean, a été le seul prêtre qui a été à la croix, hein, et le seul prêtre qui a pu y rester parce que Marie était là. Marie l'a soutenu. Vous voyez, encore hier, en voyant la,
chaque fois, avec le docteur Préau, ça a frappé la même chose. Si bon Dieu nous envoie beaucoup de deuil, c'est ainsi parmi nos amis. Mais pour nous montrer que dans nos vies, tellement frappant de voir qu'au fond, tout se rattache. Vous voyez, au fond, à ces deux, à la naissance. Bon. Et au fond, les vertus théologales qui nous font garder toujours cette attitude d'enfant du Père. Vous voyez, et voyez dans les foyers, comme en réalité le bon Dieu sanctifie les parents, très fort dans l'union avec leurs enfants ou entre eux, pas nécessairement par la joie, mais très souvent c'est le sacrifice. Vous voyez, parce que toute cette part de sacrifice de Jésus, mais qu'au fond, continuellement leur sanctification vient des souffrances qui leur viennent de leurs enfants, des privations qui leur viennent d'eux, mais que ça joue un rôle considérable. Vous voyez, alors, il faut voir dans nos communautés, de prier les uns pour les autres, hein, de la prière, de ces liens, c'est un petit peu pour trouver aussi. Vous voyez, et puis, le point de vue de la mort. Vous savez, chaque fois qu'on c'est tellement important d'entourer tous ceux qui, au fond, et de profiter de ces visites du bon Dieu par la mort. Hein? Et parce que c'est vraiment le moment où le mystère de la croix se revit près de nous. Moi, je vous avoue que j'avais beaucoup frappé, parce que quand j'ai commencé mon sacerdoce, il y a un moment où des choses qui m'avaient fait souffrir peut-être au début. Hein? Il y avait un moment où ça commençait les gens à une certaine révolte par rapport à la souffrance, par rapport à la mort. Et c'est le moment où on exaltait plus jamais, qu'il fallait exalter sa vie, développer sa vie. Bon, vous voyez, il n'y avait que la beauté de la vie qui était mise en avant. Donc le sacrifice, c'était tout ça, il fallait le supprimer, en fait, quelque chose. Et où beaucoup de prêtres, au fond, même n'aimaient pas dire des messes des morts. Même ça se dit, c'est pas toujours des morts, on parle toujours des morts. Et qu'il y avait comme un... Tout même la croix de notre Seigneur. Et qu'au fond, ça les faisait passer et méconnaître une réalité si grande dans la vie des hommes. Et parce que c'est certain que quand on voit de près, parce que les attitudes des hommes, souvent au moment des morts, au fond, ils sont très très décisives. Vous voyez ? Parce qu'à ces moments-là, il y a toujours un moment, une grâce de Dieu. Enfin, une grâce particulière. Et vous voyez, et la mort, ça fait revenir à tout ce point de vue de la famille. Il a toujours frappé. Au fond, au moment d'un mort, peut-être sur ceux qui sont là, la plupart du temps, on retrouve tous les membres de la famille, si vous voulez. Vous voyez, mais alors, transformé. C'est pour ça qu'il y a toute une réalité qu'il nous faut demander au bon Dieu de nous faire approfondir. Vous voyez, encore une fois, ce n'est pas du tout pour, vous savez très bien, pour minimiser la vocation religieuse de quitter sa famille. Mais quand on quitte sa famille, c'est pour que l'Église devienne beaucoup plus votre famille. Et pas pour devenir des vieux garçons, des vieilles filles, en fait, occupés de quelque chose, de leur travail, de leurs œuvres, et puis qu'ils n'ont plus de famille, en fait. Bon, vous voyez, parce que c'est une réalité voulue par Dieu, quand on voit dans l'Ancien Testament. Vous voyez, et c'est là la grande différence entre la philosophie et la religion. Vous voyez, alors ça, je me souviendrai toujours. Le premier contact avec le docteur, je vous l'ai déjà dit, ce pauvre le docteur Préau qui vient de mourir, et qu'est-ce qui a été à la conversion pour lui? Cet homme, il était à un âge très pris à ce moment-là par le socialisme, au fond, qui voyait, enfin, avant tout, l'idéal social, alors qu'il avait très fort l'aspect social. Je me rappelle une des premières fois quand je lui ai dit, mais au fond, il y a un petit peu, je ne vois pas beaucoup la place de la communauté, de la famille comme telle, la famille. Et au fond, retrouver un petit peu une famille, il n'y a qu'une cité ici, il n'y a qu'une société. Et alors qu'il m'a dit, ah ben, dans l'idéal socialiste, c'est vrai, parce que pour un idéal socialiste, ben, comme on a besoin de manger, ben, on a besoin d'avoir une famille, mais c'est pas une fin. Enfin, simplement, mais si vous, chrétiens, vous croyez que la grâce passe par ces réalités sensibles de la famille, si vous, chrétiens, vous croyez qu'au fond, Dieu se sert de la famille, pour lui sanctifier, alors je comprends. Hein? Ça a été un petit peu le point de départ pour lui, pour découvrir les vertus théologales. Parce que c'est vrai, au fond, c'est vrai sur le plan social, ça existe très bien les vertus morales, la justice. Hein, dit, mais en réalité, ce sont, la famille ne peut prendre de signification qu'avec les vertus théologales. Hein, et au fond, et parce qu'autrement, ben, si on reste, on ne comprend pas, on ne peut pas assumer toute la réalité de la famille. Hein, alors c'est un petit peu cette grâce-là que je vous demandais à notre Seigneur de nous donner, oui, à la fois pour notre propre vie et puis comme apôtre.
La prière. La prière.
Père, la prière.
La prière. Hein.
Bon. Allez, ne l'oubliez pas, Père.
Ô Dieu, de qui vient toute paternité au ciel et sur la terre, toi, Père, qui es amour et vie, fais que sur cette terre, par ton Fils Jésus-Christ, né d'une femme, et par l'Esprit Saint, source de charité divine, chaque famille humaine devienne un vrai sanctuaire de la vie et de l'amour pour les générations qui se renouvellent sans cesse. Que ta grâce oriente les pensées et les actions des époux vers le plus grand bien de leur famille et de toutes les familles du monde. Que les jeunes générations trouvent dans la famille un soutien inébranlable qui les rende toujours plus humaines et les fasse croître dans la vérité et dans l'amour. Que l'amour affermi par la grâce du sacrement de mariage soit plus fort que toutes les faiblesses et toutes les crises que connaissent parfois nos familles. Enfin, nous te demandons, par l'intercession de la Sainte Famille de Nazareth, qu'en toutes les nations de la terre, l'Église puisse accomplir avec fruit sa mission dans la famille et par la famille. Toi qui es la vie, la vérité et l'amour dans l'unité du Fils et du Saint-Esprit.
Amen. Amen.